Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue au tout dernier épisode d'Aux Premières Loges pour, en fait, ces séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2023. Les Golden Knights de Las Vegas sont champions de la Coupe Stanley. C'est maintenant le temps de revenir et de terminer ce chapitre-ci. Et on va le faire en compagnie de Vincent Tardif et de Thomas Lafond pour ce dernier épisode. Comment ça va, les gars? Très content d'être avec vous.
Très content de vous être là. Avec vous autres pour clore ce chapitre.
Exactement.
Je vais aussi bien que Tom. Puis je suis autant excité d'être avec vous autres pour terminer cette belle petite aventure.
Yes, Vince qui s'en va du côté de l'Europe bientôt. Fait que,
yes.
Très content que tu viennes avec nous avant ça. Les Golden Knights sont champions, c'est fait. Et une équipe tellement bien balancée, bien équilibrée. Avec Jonathan Marchessault qui remporte le Conn Smythe. On en avait parlé un peu dans le dernier épisode recap. Pas le recap, mais l'épisode du match récapitulatif du match numéro 4. Voilà, je te déparle. Mais votre opinion sur ce Conn Smythe-là, est-ce que il y avait d'autres noms qui revenaient, Eichel, Stone, Hill. Est-ce que Marchessault était le bon choix pour vous? On va commencer avec Tom.
Ben écoute, je pense que oui. Du côté de Vegas, il n'y a pas un joueur en particulier qui a amené l'équipe là. C'est vraiment un effort d'équipe comparativement, mettons, aux Panthers, où est-ce que Matthew Tkachuk aurait été le choix évident, Bobrovsky peut-être également. Mais c'est du côté des Golden Knights, vraiment un joueur qui s'est vraiment démarqué, ça a été Marchessault. A répondu présent lors de grands moments, de grosses games, a eu des grosses performances dans des moments importants, tandis que Hill aurait pu être un choix s'il avait été présent, ben en fait, s'il avait été avec l'équipe pendant toutes les séries. On se rappelle qu'il est arrivé, je ne me trompe pas, match numéro 3 ou 4 contre Edmonton en deuxième ronde. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui l'handicapait. Sinon, Eichel aurait été un bon choix, mais Marchessault est un excellent choix quand même. Le premier joueur non repêché à remporter Conn Smythe depuis Wayne Gretzky quand même. Mm-hmm. Chapeau à lui.
Oui, sur le même palier, ces deux-là, vraiment. Vince, ton opinion là-dessus?
Je partage pas mal celle de Tom, mais je pense pas que ça a été vraiment un tout, les Golden Knights en finale. Puis ça aurait pu aller à Marchessault ou Eichel, mais au final, Marchessault, il a pogné en feu, malheureusement, contre les Oilers. Puis s'il n'a pas arrêté de scorer des buts jusqu'à la toute fin. Fait que je pense que c'est bien mérité. Puis aussi, c'est ça. Fait que surtout ce que les gens retiennent, c'est les buts marqués, puis les buts importants. Il n'y a pas juste marqué des petits buts qui voulaient rien dire. Il y a un tour de chapeau contre les Oilers, il y a une autre rencontre de deux buts, je pense, durant la première rencontre. Fait que tu sais. Ça permet à son équipe de gagner deux matchs importants contre les Oilers. Puis on revient contre Dallas, je pense qu'il a marqué quasiment toutes les rencontres. Fait que il devient un joueur important pour les Golden Knights jusqu'à là. Puis en finale, il était un peu plus silencieux, mais quand même bien joué là, lui, avec Eichel puis Barbashev, qui a fait qui était pas mal le meilleur trio des séries selon moi. Là. Fait que non, c'est bien mérité pour Jonathan. Puis c'est ça.
Oui, ben totalement d'accord avec vous. Ouais, Eichel, tu sais, j'ai écouté 32 Thoughts avec Elliot Freeman puis Jeff Merrick. Les deux auraient voté pour Eichel. Elliot votait même, je pense. Ouais. Puis, tu sais, il parlait qu'Eichel aurait pu le remporter tout à fait. Moi, je pense que ces deux-là, c'était les deux au top de ma liste. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, une équipe équilibrée avec c'est le collectif qui comptait le plus. Mais c'est un bon point, les buts. Marchessault qui en a marqué à des moments extrêmement décisifs. Eichel en a seulement 6, c'est peut-être ça qui a influencé.
Ouais, ça venait souvent avec des passes d'Eichel, dans le fond aussi. Là.
Aussi.
Ça se contrebalance les deux.
Exactement. Donc les deux étaient des très bons choix. Puis au Québec ici, on est bien content que ce soit Marchy qui le remporte. Ce qui est intéressant aussi avec les Golden Knights, bon, 6 ans d'existence, déjà une Coupe Stanley. On a effectué beaucoup de moves osés, si on pourrait dire. T'sais, seulement un, on a sacrifié beaucoup de choix au repêchage. Je pense qu'il y a seulement un choix au repêchage dans l'effectif qui a remporté la Coupe cette année avec eux. Donc, est-ce que pour vous, c'est une recette que d'autres équipes pourraient employer dans l'avenir de ce genre, aller chercher de gros joueurs comme on l'a fait avec Stone, sacrifier peut-être un peu l'avenir ou les choix au repêchage pour se bâtir une équipe de la sorte? Et est-ce que c'est une recette qui pourrait être concluante pour d'autres équipes que Vegas?
Ben, tu sais, je pense que toutes les équipes le font déjà. Les contenders, on le voit, mettons, au deadline ou même avant, s'ils se bâtissent une équipe en échangeant des prospects et tout, là, c'est une recette qui est vieille comme le monde. Puis je pense que ça va continuer de l'être. Ça marche. Ça va être ça, vraiment. T'sais, une équipe Cendrillon qui finit par l'emporter, vraiment, surtout qui se rend loin, on en voit, on l'a vu avec les Panthers, on l'a vu avec, même si les Panthers, c'était pas vraiment une équipe de 8e place. On l'a vu maintenant avec les Canadiens. T'sais, une équipe qui n'était pas supposée être ça, se rend loin. Oui, c'est arrivé, mais de gagner, c'est extrêmement difficile. Donc, vraiment, vraiment la solution, c'est de se booster un club un peu en guillemets. Sûr qu'avec le cap salarial, c'est plus difficile de nos jours. Mais effectivement, je vois cette tendance continuer dans les prochaines années.
Ouais, Vince, t'allais dire quelque chose.
Ouais, ben moi, je trouve que toujours, c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, sacrifier le futur au complet pour gagner un championnat. Parce que, tu sais, là, on regarde cette année. Oui, les Golden Knights, ça a marché. En 6 ans, ils ont bien profité de du repêchage d'expansion pour faire le plein de pics et de jeunes. Après ça, tout rééchanger pour se booster un club. Mais, tu sais, quand des fois, ça marche pas, ça peut être dangereux. Mais, tu sais, on veut tout le temps. L'objectif final, c'est tout le temps un championnat. Fait que ça vaut-tu la peine de sacrifier un futur? Je pense que oui. Mais ça peut donner des situations. Je regarde, là, mettons, dans la NFL. Les Rams, il y a 2 ans, ont pas mal tout sacrifié leur choix pour se bâtir une équipe pour gagner le championnat. Ils l'ont gagné cette année, il n'y avait plus la première ronde. Ils ont connu une saison exécrable. Puis ça a donné que. C'est ça, il n'y avait pas la première ronde. Fait que là, c'est le futur de l'équipe qui devient en péril. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas. Plus on regarde les Golden Knights, Tom a parlé du cap. On regarde
bon, les Golden Knights. C'est la situation de Mark Stone, mais.
Ouais, c'est ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Elliott parlait justement dans son podcast aussi qu'il allait être in and out du line-up à cause de ses blessures.
Par contre, il aurait clarifié plus tard que c'est ce qu'une autre équipe lui avait dit. Puis que les Golden Knights croient qu'avec la dernière opération au dos, ils vont être en pleine forme pour les années à venir.
Mais tu sais, c'est ça. Fait que, ils sont déjà à 80 millions. Puis là, tu sais, un Brett Howden qui est signé, Barbashev, vas-tu réussir? T'sais? Puis, de tu sais, devant le filet, c'est Logan Thompson. Après ça, tous les autres gardiens sont UFA. Fait que, tu sais, ils vont-tu réussir? C'est sûr que leur défensive va rester pareil. Mais après ça, c'est ça. Tu sais, ça va être quoi l'année prochaine? Qu'est-ce que les Golden Knights vont ressembler? Est-ce que ça va être capable encore d'être un contender? S'ils sont pas capables, ben, tu sais, sacrifier tout ça, tu sais, c'est leur. La moyenne d'âge est quand même. Ouais, c'est dangereux parce que tu sais, on a assez nos moyennes d'âge. Fait que là, ils ont hypothéqué ton futur, mais l'objectif final, c'est tout le temps de vouloir une Coupe Stanley. Donc, je pense que ça vaut la peine. Ben, c'est à y penser deux fois.
Exact. Puis, tu sais, Tom parlait que c'était une recette que toutes les équipes utilisaient. Oui, mais on regarde, mettons, l'Avalanche ou le Lightning des dernières années. On l'a pas fait autant que les Golden Knights. On a conservé des Cirelli du côté du Lightning. D'autres joueurs, je pourrais nommer du côté de l'Avalanche. Bref, les Golden Knights.
Mais mettons du côté du Lightning, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas repêché en première ronde. Puis même là, on devait avoir quelque chose de
temps. On a repêché l'année passée en première ronde.
Quoi?
On a repêché en première ronde l'année passée. Fait que...
Ah, c'est vrai.
Mais les autres années, peut-être pas, mais ouais. Fait que c'est...
Mais tu sais, il y avait déjà sacrifié du futur à chercher, mettons, des gars comme. Quand Eagle l'année passée ou Jeannot Sané.
Ouais.
Mais faut pas dire que ça reste, dans le fond.
Ça restait des changements moins drastiques que ce que les Golden Knights ont fait. T'sais. On repêchait de très bons joueurs, des Suzuki qu'on a tout de suite rééchangés pour aller chercher des joueurs comme Patcherity qui, même aujourd'hui, ne sont plus là. On l'a fait à plusieurs reprises. Ça a donné un championnat. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça risque que ça va impacter le futur. Parce qu'une fois que la Vince en parle un peu, une fois que la fenêtre d'opportunité va être, fermée, qu'est-ce qui va devenir après ça? Ça va être très difficile, je pense. Mais voilà. Le pari a été gagnant parce qu'ils ont gagné une Coupe Stanley quand même. Bon, là, la parade. J'ai vu que des extraits, entre autres un discours de William Carlson qui m'a bien fait rire. Mais j'ai pas vu l'ensemble de l'œuvre. Peux-tu nous parler un peu de ce qui est arrivé, de ce qui s'est passé, Vince?
Comme toi, j'ai vu des extraits, mais j'en ai vu beaucoup passer. Là. On a eu un. Je pense que les gars étaient vraiment sur le party. Là.
Ouais.
Je pense qu'il y a plus d'alcool d'impliqué là-dedans. Là. Je suis pas un expert, mais. Aiden Hill, quand il se fait interviewer, son visage a un peu d'un gars très affecté par les substances. Puis quand il demande je sais pas quoi faire avec mes mains, il y a un peu la face d'un gars qui est sur la mette, si on peut le dire. Là. Fait que je veux dire, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y a Jack Eichel qui son chandail l'a enlevé, fait tourner. Tous les gars en fait ont fini en chess, là, ce que j'ai pas marqué sur le stage. Là.
Ouais.
Et non, il y a vraiment d'avoir un bon party. Keegan Colossard aussi. Toute une shape, honnêtement. Mettons que ce gars-là, c'est pas la shape de Phil Gasol. D'après moi, Phil Gasol, ça doit être le seul qui doit avoir fini avec son chandail là, à la fin du.
D'ailleurs, Jack Eichel a confirmé que Phil Gasol a déjà mangé un dog dans la coupe.
Bon, c'est check.
Puis je me demande aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de. Du balanceur qui va faire des danses gratuites aux gars s'ils en ont déjà profité ou si c'est peut-être prévu là, à la suite. C'est peut-être prévu à la suite de la parade. Là. Je connais pas leur itinéraire à 100%.
C'est sûr et certain que si c'est pas déjà consommé, ça va l'être. Je pense que c'est déjà au calendrier là, de profiter de cet avantage, assez gros avantage, je pense. Une grosse motivation. Voilà. Puis pour les Panthers maintenant. Bon, je pense que la comparaison avec le Canadien 2021 se fait encore plus claire avec ce que Paul Murray s'est révélé, là, le nombre de blessures, fracture du sternum pour Tkachuk, bon, à cause de la shape de Colossard peut-être, justement, comme Vince nous disait. Ekblad aussi, pied cassé, Lou Ostarinen, bref, plusieurs blessures du côté des Panthers, ce qui n'est pas surprenant après les séries. Mais si on se rappelle, Canadien 2021, Weber qui n'a pu rejouer un match après ça, Price qui a manqué presque l'entièreté de la saison 2022 après ces séries-là. Il y avait d'autres blessés dans les rangs du Canadien. Fait que, puis après tout ce qu'on a parlé dans cette comparaison-là, je pense que c'est vraiment une comparaison qui se tient. Parler du parcours des Panthers un peu, comment ça se termine là, pour conclure sur eux là-dessus. Là, je ne sais pas si tu y allais, Tom.
Ben écoute, les Panthers étaient maganés. Écoute, pire que Dave dans sa chat. mais ça s'est vu en finale. Aaron Ekblad, je sais pas comment il faisait pour se tenir debout en finale avec toutes ses blessures. Que Chuck l'a même dit au bilan, je pense, qu'il y avait de la misère à se lever à mettre son équipement après lors du quatrième match. Écoute, ça fait partie du hockey des séries. Les gars sacrifient tout sur la glace. Ils laissent tout sur la glace, sacrifient leur corps, leur santé. Puis ça fait partie du hockey des séries. Il y a des histoires de même à toutes les années, mais vraiment du côté des Panthers. Là, par contre, les blessures de ce qu'on parle devraient être. Les joueurs devraient être prêts au début de la saison. Ekblad est supposé manquer un peu de début de l'entraînement, mais ça risque pas d'avoir un gros impact sur la saison prochaine, au moins. Donc, c'est ça. C'est un peu le danger aussi de ces longs parcours en série. T'as une moins longue saison morte, moins de temps pour récupérer. T'es plus magané. Donc, c'est ça. On va voir l'impact que ça va avoir sur les Panthers l'an prochain, mais je m'attends à ce que ce soit minimal.
Oui, ben, une chance pour eux. Mais comme tu le dis, effectivement, ça arrive à toutes les séries, ce genre de choses-là. Tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus?
Je dis que c'était, je pense, c'est un parcours surprenant. Il n'y a pas grand monde qui avait vu les Panthers sortir les Bruins en 7, surtout quand les Bruins menaient 3-1. Fait que, puis surtout après ça, sortir, tu sais, mener 3-0 contre les Leafs, puis ensuite éliminer les Hurricanes en 4. Fait que je pense que c'est un parcours quand même qui est assez extraordinaire. Surtout pour une saison que l'équipe, que le directeur général disait que ça allait être un peu une année step back là, après avoir échangé deux morceaux importants de son équipe. Là. Fait que je pense que t'es bien content de voir ça, mais il n'y a pas de surprise pour moi en finale. Là, tu parles de la comparaison avec les Canadiens de Montréal. C'est deux équipes qui affrontaient. C'était deux David contre Goliath. Puis cette fois-ci, les Goliath ont remporté le duel là, assez facilement. Je pense que ça a, été, ça a été démontré. Les deux, ça s'est terminé en 5. Fait que.
Ouais, puis le Canadien a perdu seulement 1-0 lors de, du match final. 9-3 pour les Panthers, ça fait quand même mal finir là-dessus.
Ça fait mal. Mais Vin, tu parlais que tu déjà avais dit que ça allait être une année step back. Mais du coup, des Panthers, un facteur qui a beaucoup aidé, c'est.
La défaite des Pingouins. Joueurs.
Quoi?
La défaite des Pingouins.
Oui.
Entre autres.
Les Blackhawks de Chicago.
Oui, écoute, on tient rapide puis c'est possible.
C'est
important. C'est toi qui gagne soit contre Chicago, soit contre Columbus. Pas capable. Des prises d'équipe de la Ligue. Même pas capable de faire ça. Et une série de 15 ans en série qui s'arrête à cause de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du côté Panthers qui a aidé, un facteur qui n'a pas été prévu, c'est vraiment l'émergence des défenseurs, notamment Montour, pour venir ramasser au Uyghur, qui est-ce qui aurait pu prévoir ça? Personnellement, j'avais pas vu ça. J'avais pas su ma carte de bingo. Même chose du côté de Forsling. Et des gars comme Verhaeghe. Verhaeghe qui avait connu une bonne année l'année d'avant, mais qui a vraiment explosé un peu cette année. Et en série surtout. Là. Donc ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Ali?
Ben, j'ai dit Bennett, Duclair, Reinhardt. Lundell, grosse mention honorable à Anton
Lundell.
Gros pas en avant là, dans ces séries-là. Puis je pense vraiment qu'il va faire partie déterminante du top 6 des Panthers à l'avenir là, parce que c'est un joueur qui peut faire de multiples choses sur la glace. Fait que là, on a fait le recap sur la série finale en tant que telle. Les séries en général, là, depuis la ronde 1, votre divertissement, comment vous avez trouver ces séries-là en général. Pour ma part, je vais m'avancer. Là, j'ai été un peu déçu niveau plaisir là, en regardant ces séries-là. Comparé à d'autres années, j'ai perdu un peu de l'intérêt là, avant d'arriver à la finale, je te dirais. Je pense que la ronde 1 a été très divertissante. On a eu des matchs numéro 7 et tout. Après ça, ronde 2, il n'y avait pas beaucoup de matchs serrés. Il n'y a pas eu de match numéro 7, si je ne me trompe pas, à partir de la deuxième ronde. Donc, Le divertissement a été un peu moindre dans mon cas. Ça reste que c'est des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, c'est le printemps, c'est toujours le fun. Quand j'étais chez nous le soir, c'est sûr que j'allais regarder un match de série. Mais je sais pas, au niveau divertissement, j'ai l'impression que le plaisir était un peu plus bas que certaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ben écoute, on a été servi. Vas-y, viens.
C'est bon. Ben ouais, je suis complètement d'accord. Là. En effet, une première ronde super divertissante. Avec plusieurs overtime, puis un comeback des Panthers, un comeback des Devils, les Dallas qui parlaient 2-1, en deuxième ronde, effectivement, un peu plus plate. Mis à part la série Vegas-Edmonton, on s'entend à toutes les games, tout le temps quand ils sont à 10h, c'est un peu difficile là, quand avec ton train de vie de tout le temps suivre ces matchs-là. Fait qu'il y a ça, puis la troisième ronde, c'est sûr que c'est intéressant, là, Caroline contre la Floride avec beaucoup de matchs serrés.
Malheureusement, ça finit en 4, cette série-là. Ouais, c'est une série qui aurait pu être très longue.
Oui, ça a tout fini en faveur des Panthers. Puis la finale, de mon côté, je m'attendais à ce que ce soit ça, là, en 4 ou en 5, une victoire des Golden Knights. Ça fait que c'est sûr que ça baisse là, le niveau d'engouement vers ça.
Effectivement, Tom. Écoute, moi de mon côté, je sais plus c'est qui d'entre vous qui avait dit ça, mais les séries cette année, c'était vraiment bipolaire. On a vraiment eu des surprises, surtout en première ronde. T'sais. Boston, avec la meilleure fiche en saison régulière, qui se fait éliminer en première ronde. Qui est-ce qui avait dit ça? Certainement pas moi. Même que mon père m'a traité de traître parce que j'avais prédit que Toronto et Boston passeraient en deuxième ronde. Bon, au moins Toronto a enfin passé la première ronde. Mais c'est ça que, comme tu dis, des surprises, c'est l'Avalanche qui se fait sortir au premier tour. T'sais. On n'en a pas tant parlé que ça, mais c'est arrivé. En plus, par le Kraken, ça vraiment. Côté match-up, on n'a pas vraiment été servi. On a pas eu des grosses rivalités en série, mais ça a été fun de pouvoir voir des équipes qui normalement on aurait peut-être pas vu. Je pense aux Panthers ou aux Kraken. C'est fun de les voir se rendre loin. Ce genre de parcours-là, d'équipe Cendrillon, c'est tout quelque chose qui vient me chercher un peu. C'est la beauté un peu du sport, dans n'importe quel sport. Puis c'est ça. Là. On a été servi cette année par rapport à ça. Là.
Totalement, totalement. Oui, je suis très d'accord. Le niveau surprise, c'était là. Ben, d'ailleurs, si on rentre dans des prix qu'on pourrait accorder, là, que ce soit un joueur à une équipe qui a un parcours surprenant, vos surprises, ce serait laquelle, joueur, équipe? Mettons, je ne sais pas si quelqu'un, un d'entre vous, l'a en tête. Là.
Bon, écoute,
je peux m'avancer. Là. Moi, je vais y aller. Les Panthers, c'est la réponse évidente. Mais moi, je vais y aller avec le Kraken de Seattle, honnêtement, qui m'a grandement surpris. Moi, je pense qu'à peu près tout le monde pensait que l'Avalanche allait se charger du Kraken assez facilement. Ça n'a pas arrivé. Ça a donné plutôt une série très serrée, très divertissante, qui s'est terminée en 7 matchs. Le Kraken, une équipe beaucoup moins bonne en termes de talent, mais comme un peu avec les Golden Knights, mais avec moins de talent, comme je l'ai dit, dont le collectif était extrêmement fort. Puis c'est comme ça qu'on est parvenu à battre l'Avalanche. On a offert une bonne opposition aux Stars également en deuxième ronde. À un certain point, je pensais que le Kraken allait sortir les Stars aussi. Finalement, les Stars ont été capables de se charger du Kraken. Mais vraiment, chapeau au Kraken. 2 ans d'existence avec pas le meilleur alignement autant offensif que défensif. Philip Grubauer dans les buts qui a fait de l'excellent travail en série. Plusieurs doutaient de lui, moi y compris. Et pourtant, a fait du très bon travail. Fait que moi, ma palme pour la surprise, ça va être le Kraken. Je sais pas si quelqu'un veut suivre, on va y aller avec Tom, mettons.
Ben écoute, c'était mon choix. Okay. Mais moi, y aller avec le choix évident. Les Panthers. Qui est-ce... Oui, c'est une équipe qui venait de remporter le trophée des présidents l'année d'avant. Avait changé Berdo et Weir, mais ça avait rendu ça par Ketchuk. C'est pas une équipe de 8e place. Mais je m'attendais pas à ce qu'il élimine Boston, à ce qu'il élimine Toronto, à ce qui passe la Caroline, en fait, les 3 meilleures équipes de l'Ouest. En fait, je pense qu'ils ont affronté 4 des 5 meilleures équipes de la Ligue nationale en série. On sont quand même bien sortis d'affaires. Bally et les Hurricanes, j'aurais jamais pensé que les Panthers auraient fait ça. Donc, vraiment, chapeau à un parcours extraordinaire qui a fait tanker. En fait, qui a fait descendre le choix du Canadien.
Ouais. On se dit,
on espérait un choix de loterie avec le choix des Panthers. Finalement, c'est 31e. Bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais ça, avec un parcours incroyable qui, je pense qu'on va s'en rappeler quand même longtemps.
Certainement. Vince?
Moi, je vais aller plus avec un joueur.
Ouais.
Parce que, à part la Floride puis Seattle, je pense que tout le monde s'attendait à, mettons, toutes les équipes qui sont passées en deuxième ronde à peu près passées. Fait que ma surprise, moi, c'est Ivan Barbashev.
Oh oui.
Que je trouve qui est vraiment l'acquisition des séries. Mm-hmm. On l'a beaucoup plus vu, on a beaucoup plus le voir à la télévision, vu que, tu sais, en deuxième puis en troisième et en finale, là, puisque, tu sais, il y avait moins de rencontres. Fait que ça nous a permis d'apprécier un peu son jeu. C'est un gars qui est physique, qui n'a pas peur d'aller dans les coins, qui a une bonne capacité de marqueur. T'sais, il a fini l'année passée avec 60 points. Ça a été sa plus haute. Ça a été changé cette année. T'sais, les Blues, ça a été une sorte plus difficile. Ça a été changé 16 points en 23 rencontres avec les Golden Knights en saison régulière. Puis là, il est arrivé en série. il a joué avec. Tu sais, jouer sur le premier trio, tu sais, un gars qui est habitué un peu plus de jouer sur la 2 et la 3e ligne. Juste jouer sur ce qu'on pourrait appeler le premier trio des Golden Knights. 18 points, plus 14. Grosse musique. Il a sorti carrément Radko Gudas de la série.
Ouais.
Fait que non, j'ai bien apprécié lui. Puis on sait, c'est un gars qui va faire beaucoup d'argent. Peut durer au moins les 6 prochaines années, selon moi. Et puis il reste à avoir beaucoup d'équipes après lui. Là,
parce ouais, qu'on c'est
voit un peu que c'est le genre de gars que tu as besoin en série.
Mm-hmm. Ça risque d'être pas avec Vegas, là, c'est ça l'affaire. Là.
Ben, à moins qu'il réussisse, à moins qu'il trouve ouais. une façon de faire de l'argent. Là, j'ai vu de, je sais pas à quel point qu'il songe vraiment, là, mais Riley Smith, justement, durant la parade, là, il a dit je pense que ce serait le bon moment pour moi pour me retirer. M'amener avec un peu d'alcool puis prendre, profiter de la vie de chalet qu'il parlait. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui. J'ai pas la courte au complet, j'ai juste vu la courte passer, mais si jamais on a quelqu'un qui se retire, on peut peut-être avoir de la place, mais sinon va falloir que les Golden Knights fassent des mains et des pieds pour conserver Ivan.
Barbatchev, exact. Puis,
effectivement, puis même, même juste pour être pour arriver à être en dessous du cap, il va falloir définitivement qu'il se débarrasse de salaire, définitivement.
C'est sûr. Comme plusieurs équipes qui remportent la Coupe Stanley doivent le faire. Autre mention honorable là, avant qu'on passe à la déception. Là, vous pouvez penser à votre déception et, pendant que je parle. Mais une autre mention honorable d'un joueur surprise, Aiden Hill, dans les buts du côté de Vegas. Jamais je pensais que lorsque Hill est entré en jeu là, pour Laurent Brassois qui était blessé, jamais je pensais que Hill aurait ce qu'il faut pour amener les Golden Knights à une conquête de la Coupe Stanley. Et il m'a complètement surpris avec de très bonnes performances, même des performances qui auraient pu lui attirer le Conn Smythe s'il avait été dans les séries depuis le début. Mais il a été meilleur que Bobrovsky en finale. Il a été étincelant contre Dallas également. De bons arrêts à tous les matchs, très peu de mauvais buts là, que je me rappelle qu'il a donné. Là. Donc, Aiden Hill, chapeau, jamais je pensais qu'il pourrait avoir ce calibre-là. Et pourtant, il l'a trouvé. Donc, voilà, mention honorable à Aiden Hill également. Puis, Barbashev, Kraken et les Panthers, ce sont d'excellentes réponses aussi pour les surprises. Maintenant, déception, je ne sais pas si vous l'avez en tête. Il y a plusieurs possibilités également. Vince?
Encore là, c'est un choix facile, là, mais je sais pas rien qui est en tête, là, mais je pense que ce serait les Bruins.
Ouais.
Une équipe qui a eu la meilleure saison régulière de l'histoire de la Ligue nationale. Net 3-1 contre une équipe qui n'était pas censée être en série éliminatoire. Fait que ça, c'est une très grosse déception. Là. Je pense que toute la ville de Boston était prête à aller se battre là, dans les rues, surtout en connaissant leur caractère de descendance irlandaise.
Oui.
Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est la plus grosse déception. Là, tout le monde les voyait remporter la Coupe cette année, éliminer les Panthers en 4. C'est finalement le contrat qui est arrivé. Là, ils se sont fait remonter avec 3 victoires de suite des Panthers. Fait que ouais, c'est pas mal la déception des séries éliminatoires.
Moi, de mon côté, j'irais avec les Rangers, en particulier Artem Panarin. Les Rangers, personnellement, j'y voyais se rendre loin. C'est un de mes choix pour la coupe avec Boston. En fait, c'est mon choix pour l'équipe qui sortait de la métropolitaine. Ils ont cherché Patrick Kane, ils ont cherché Tarasenko. En série, on a échappé en fait une avance de 2-0 contre New Jersey. C'était des gros joueurs comme Panarin qui n'ont pas vraiment été présents lors de série. Panarin, seulement 2 passes. Patrick Kane, seulement 1 but. Tarasenko également, ça n'a pas été fameux. 4 points en 7 matchs. Trouba qui n'a rien fait. Lafrenière également. On était en droit de s'attendre à plus des Rangers. Ils n'ont rien fait. Lors de la game numéro 7, on était absolument flat. Quand dans un match numéro 7 à l'étranger, il faut que tu attends à sortir plus que ça, ce qui n'a pas été fait. Donc, écoute, du côté des Rangers, il va y avoir des décisions qui vont être prises, je pense, cet été. déjà que tu perds, que tu risques de perdre quelques agents libres, dont Kane Tarasenko. Ça reste à voir ce qui va se passer là-bas.
Très bon choix, les Rangers aussi, avec tous les mouvements qu'ils ont fait, puis bien entendu les Bruins. Moi, pour ma déception, je pourrais fesser sur les Leafs encore, mais je vais décider de fesser sur un joueur en particulier des Leafs, et Austin Matthews, qui a connu une bonne première ronde, ça c'est vrai, il faut lui donner contre le Lightning. Mais après ça, contre les Panthers, c'est complètement effacé, alors qu'il est censé être le leader offensif de cette équipe-là. Je pense que c'est une passe en 5 matchs là, contre les Panthers, quelque chose comme ça. C'est complètement inacceptable pour un joueur de sa trempe. Encore une fois, c'est fini avec un point par match. Il est fini avec 5 buts, 6 passes en 11 matchs. OK, mais c'est justement ça. Dans le gros moment, une fois que enfin la malédiction des Leafs était tombée, qu'on avait remporté une ronde, il fallait continuer à se lever. Moi, je pensais que les Leafs, une fois que cette malédiction allait tomber, seraient capables de justement de prendre leur ampleur puis d'enfin performer en série. Mais non, seulement une seule victoire en deuxième ronde. On a passé très proche de pouvoir dire qu'ils n'ont toujours pas remporté un seul match en deuxième ronde. Finalement, ils en ont gagné un. Mais voilà, c'est Matthews qui n'était pas là, n'était pas présent sur la glace. Il doit marquer des buts. C'est un gars qui marque des buts, seulement 5 buts en 11 matchs dans ces séries éliminatoires-là. Même contre le Lightning, c'était pas suffisant. Il y a eu beaucoup d'autres problèmes là, dans le noyau offensif des Leafs de ce côté-là. Même qu'après l'épisode où les Leafs sont éliminés, je parlais qu'un échange de Matthews serait une bonne option pour les Leafs. Bref, je rentrerai pas là-dedans, mais Matthews m'a encore déçu. Les partisans des Leafs sont le plus voir sur les réseaux sociaux, puis c'est tout simplement pas assez pour un joueur de sa trempe de complètement s'effondrer, de disparaître en deuxième ronde, alors que c'était les Panthers, c'était une équipe qu'on pouvait battre si on avait été capable de passer contre le Lightning de Tampa Bay, puis là, de disparaître ainsi, inacceptable pour moi. Donc, ma déception, Austin Matthews. On va passer maintenant à la meilleure série. On a eu seulement des matchs numéro 7 en première ronde. Moi, je pense que ça va se tourner de ce côté-là, mais il y a d'autres candidats également. Donc, meilleure série, Vince, as-tu une série en tête?
Très bonne question. Ben, je veux juste dire que, premièrement, Dallas-Seattle, en deuxième ronde, ça a été en 7.
Donc, ah oui, excuse. Oui, t'as raison.
Ouais.
Il y a eu 4 matchs numéro 7, 4 séries en 7 au total, c'est vrai.
Donc, j'ai en première ronde. Je ne sais pas si c'est être bias, mais je dirais que les Oilers contre les Kings.
Oh, oui.
Là, je dis ça, mais j'ai juste écouté la première game. Fait que, tu sais, c'était un peu c'était un peu spécial. Mais ouais, tu sais, je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements avec deux équipes qui sont affrontées l'année passée en série. Il y a une rivalité qui augmente un peu entre les deux. Fait que c'est vraiment intéressant. On a eu le premier match où les Oilers venaient 3-1. Qui se sont fait remonter, les Kings ont gagné en overtime. On a eu le match, c'est le match numéro 5, je crois. Ouais, le match numéro. Non, le match numéro 4. Oui, non, c'est 5. Le match numéro 5 où les Oilers. Non, c'est 4. Bon, le match numéro 4 où les Oilers perdaient 3-0 première période, ils ont remonté 3-3, ils ont gagné en overtime. Puis là, ensuite, ouais. On a eu le match numéro 6 où c'était. 2-1 pour les Oilers. On a eu 3-1 pour les Oilers. Les Kings sont revenus à 3-3. Les Oilers ont fait 4-3. Les Kings ont fait 4-4. Puis finalement, Clint Costin a fait. Ah non, excuse, Kari Yamamoto a fait 5-4. Fait que tu sais, je pense que vraiment, ça a vraiment été une série avec. C'était très serré aussi, là, à part le match numéro 5 où les Oilers ont gagné 6-3. Là, c'est des matchs qui sont finis très serrés. Fait que ouais. Ça va être ça, mon choix.
Moi, de mon côté,
très bon choix. Une série, effectivement, que les deux équipes sont revenues de l'arrière à plusieurs reprises. Oups, ça a bugué.
Oui, il y a un petit bug, mais vas-y.
Est-ce que tu vas bien?
Oui.
Vas-y. OK, bien, ce que je disais, c'est ça, c'est que bon choix, une série où à la fois les Kings et Warriors sont revenus de l'arrière, comme Vince a dit, mais vas-y avec ta série, la meilleure série, selon toi, là, dans ces séries-là, Tom.
Moi, je vais y aller avec Panthers Bruins. Surprenamment, je ne m'attendais pas à une série aussi longue. En fait, Boston qui a pris les commandes assez rapidement, 3-1. Bobrovski qui arrive, je pense, au troisième match. Après ça, la Floride qui remonte dans des matchs assez serrés. On se profite des largesses défensives de Boston dans les matchs numéro 5 et 6. Et je pense que c'était Verhey qui marque en prolongation du match numéro 7, qui réduit au silence le Garden de Boston. T'aurais pu entendre une mouche voler. Tellement les partisans étaient sous le choc. C'était vraiment une série assez mémorable cette année. Mais comparativement aux autres années, je pense pas qu'il y en a eu tant que ça des séries qui ont vraiment capturé l'imaginaire cette année. T'as des années plus remarquables que d'autres.
Mais effectivement, Panthers-Bruins, c'était un de mes choix aussi, là, clairement. La remontée des Panthers que personne n'attendait alors que les Bruins dominaient la série 3-1. Très bon choix. Moi aussi, ça avait joué aussi aller en première ronde avec Hurricanes-Islanders. C'est pas vrai. C'était la série la plus flottante. Hurricanes-Islanders, là, honnêtement, je vais pas bâcher le hockey, mais c'était très défensif. Pas beaucoup d'occasions de marquer à chaque rencontre. Donc, c'est une blague, ce n'est pas mon choix. Je vais y aller avec Avalanche Kraken. J'en ai parlé plus tôt, mais cette série-là, j'ai pas eu l'occasion de voir tous les matchs au complet, mais quand j'étais devant mon téléviseur, honnêtement, là, c'était du bon hockey qui s'offrait à moi. Tout le temps, de ce que je me rappelle de cette série-là, tout le temps, quelque chose qui se passait, tout le temps d'un momentum, soit qui shiftait de l'Avalanche au Kraken. Le Kraken, surprenamment, qui était capable de passer plusieurs minutes dans la zone de l'Avalanche, puis après ça, l'Avalanche, comme le bulldozer qu'ils ont, elles sont capables de renverser la vapeur, d'aller attaquer, d'aller marquer des gros buts avec l'attaque explosive qu'ils ont. Là. Je ne nommais pas les joueurs, on les connaît bien. Mais vraiment, cette série-là qui s'est rendue en 7, m'a vraiment diverti quand j'ai pu la regarder. Fait que je pense que c'est un très bon choix aussi, tout comme vos deux séries, là, deux séries qui se sont terminées. Qui ont duré longtemps, c'est terminé en 6, c'est ça, Kings of Order, c'était pas en 6?
Ouais, en 6.
Mais voilà, deux séries qui ont duré trois séries qui ont duré longtemps, donc qui sont tous des bons choix. Je sais pas si on pourrait parler d'un but en particulier qui est mémorable dans ces séries-là. Je sais pas s'il y en a un qui vous vient en tête. Là. Pour moi, il y a clairement le but de Tkachuk après 4 prolongations.
C'est ça que j'allais dire.
Moi, j'aurais le but à Tavares. Le but à Tavares en overtime contre le Lightning, qui a brisé la malédiction. C'est vrai.
Rapidement,
c'est vrai, bon point.
J'en ai pas qui me viennent en tête à part ces deux-là.
Il n'y a pas Draisaitl qui a fait tout un but à Mané, là.
Lui ou McDavid. Mais il n'y en a pas qui me viennent en tête.
Draisaitl en a pas marqué pas mal.
Sinon,
le tour du chapeau de Marchessault, ça en est un bon.
On n'en parle pas. on a celui de Markstrom aussi en finale. Tu sais, c'est quand même assez le fun de faire un tour du chapeau de la Coupe Stanley, malgré que c'était 8-3. Là, tu sais, c'est...
Ouais,
le flet désert qui a essayé comme 4 fois, puis un poteau. Ouais.
Le but à Barkov. Le but de Barkov, le fake between
the
legs.
Oui, le but à Barkov.
Fake between the legs. Ça,
très bon choix.
Ça, je pense que c'est mon préféré. Ouais, vite de même, là, sans grosse recherche.
Ouais, ben, ça, on en a déjà nommé 3-4, là. Fait que c'est des très bons candidats, là. Celui à Tkachuk en particulier, que je pense, là, écoute, 4 périodes de prolongation. On avait déjà marqué avec Lambert, il a vu refuser.
Et ça finit, ça.
Ouais. Et puis, moi j'allais me coucher si ça allait en cinquième prolongation, puis quelques secondes avant la fin
de la dernière période.
Beau tir en plus, partie supérieure, fait que très bon but. Bon, ça va conclure pas mal l'épisode, les gars. Merci d'avoir été avec nous. Oui, vas-y, Vevin.
Je voulais avoir votre opinion sur quelque chose en conclure l'épisode. Là. On a les Golden Knights qui ont busté le cap. Le Lightning contre le Canadien. Ouais. On a eu deux fois les Pingouins. Dans leur run, là, ils ont dépassé à peine. Là, c'est un 4 puis un 2 millions, mais ils ont quand même dépassé le cap à l'époque. Puis on a eu les Blackhawks contre les Blackhawks aussi qui ont dépassé le cap. Fait qu'on parle, c'est 5 des 9 derniers gagnants de la Coupe Stanley. Mm-hmm. Donc, moi, je me demandais, est-ce que c'est la recette pour la victoire?
Honnêtement,
de buster le cap en série.
Clairement que ça l'aide.
Ça l'aide, mais en même temps, ça fait partie des règlements, tu sais.
Oui, ça, je suis conscient, mais juste
ma question, Stone était blessé de manière legit. Kucherov, bon.
Ben, c'est plus que Stone.
Là. Avant, mais...
C'est plus que Stone. Là. Tom, c'est 14 millions, les Golden Knights. Là. Fait que c'est un Stone plus un... Je ne sais pas qui est payé 5 millions. Mais toi, c'est un Stone plus un Riley Smith.
Ouais, OK. Je pense que c'est juste Stone. Là. J'ai pas
non, il était à 14.
Mais ça, oui, 14 millions. Quand tu sais, il faut imposer une limite. Mais...
Mettons pense... cette année... je sais si moi je vais retrouver ça. Là. Sinon, cette année, masse salariale. Cette année-là, mettons, on a la masse salariale. On avait les Golden Knights, les Oilers, les Lightning, les Leafs, les Hurricanes, les Panthers, les Devils, les Bruins. Ça fait 8 équipes. Puis là-dessus, il y en avait 6 qui sont passés en deuxième ronde. Qui bossent le cœur à cause de certains LTIR qui ont pu ramener. Fait que ma question, c'est ça.
Ben c'est...
Parce qu'on parle de baser son équipe avec une bonne ligne de centre, des bons défenseurs, puis il te faut une couple de gars qui sont sur ton qui sont encore sur leur contrat d'entrée. Mais au final, les équipes respectent pas la masse salariale.
Ouais. Ben moi, écoute, clairement que ça c'est... Ouais, vas-y, Tom.
Ben c'est difficile à dire. Okay. Oui, c'est une tendance qui est répandue dans la ligue, mais en même temps, tu sais, si un gars est prêt à jouer après être revenu de blessure...
Ouais, mais mon point, c'était pas ça. C'était pas si c'est correct ou pas. Mais juste si c'était la façon de gagner. C'est-tu la façon de gagner?
Moi, je pense que quand les circonstances sont là... Pour le permettre, là, t'sais, je pense que clairement le Lightning avec Kucherov il y a 2 ans, puis le Vegas avec Stone, entre autres, cette année, clairement, ils ont manœuvré pour que ça fonctionne, pour qu'ils n'aient pas besoin de dépenser leur cap avant. Pas de le dépenser, mais de le diminuer. Fait que je pense que quand, t'sais, si tu n'as pas de blessé à long terme, c'est sûr que tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu as la possibilité de le faire, clairement que les équipes vont s'arranger, vont faire Stone, non, il n'est pas prêt pour venir tout de suite. Il va être prêt juste au match numéro 1 des séries éliminatoires ou comme coach aussi il y a 2 ans. Fait que moi, je pense que oui, clairement, que c'est une recette qui peut s'avérer très, très payante quand tu as la possibilité de le faire. C'est pour ça que moi, je changerais cette règle-là complètement. Là. Pour moi, ça donne un avantage à certaines équipes. J'irais peut-être, tu sais, pour quand tu es dans l'incertitude à la limite des transactions, peut avoir peut-être un coussin, disons, peu importe le montant, le 10% de la masse salariale, mettons, pour prévoir certains, tu sais, si tu as des joueurs blessés que tu ne sais pas s'ils vont revenir avant les séries, que tu puisses manœuvrer un peu puis te dire, si jamais ils reviennent, ben je vais être dans le coussin, mais de pouvoir dépasser de 14 millions de... C'était 21 millions, je pense, le Lightning, il y a 2 ans.
18, je pense.
Je pense que c'est complètement... Comment?
18,5, il n'y en a pas le même.
18, OK, ben voilà. Fait que je pense que c'est complètement illogique, complètement inégal pour d'autres équipes. Fait que moi, je pense que cette règle-là doit être changée. Puis oui, pour répondre à ta question, clairement que ça aide puis que ça peut être une stratégie.
Mm-hmm. Ben écoute, je pense qu'il y aurait moyen d'augmenter la masse salariale en série, peut-être d'un 5-6 millions, mais évidemment, il faut mettre une certaine limite parce que tu sais, 14 millions avec Vegas, c'est quoi, 18,5 de Lightning?
C'est
pour.
Ouais.
À un moment donné, il y a des équipes qui vont trop prendre avantage de ça.
Ouais, 100%. Fait que ça revient au point du Lightning de changer cette règle-là qui a amené en 2015 que la Ligue a dit non, on change pas ça.
Ouais. Mais c'est ça. Moi, je pense à un certain pourcentage là, de la masse. Qui permettent aux équipes de manœuvrer un peu, mais de ne pas être dans l'exagération non plus, là, comme Vegas ou le Lightning. Parce que clairement, ça a l'avantage d'autres équipes, puis ça a désavantage d'autres. Fait que, ouais, merci d'avoir parlé de ça, Vin. J'avais oublié.
C'est un coup de chance, là. Au final, c'est un coup de chance, là, parce que, tu sais, savais-tu que Marshall allait se blesser qui allait pouvoir le mettre sur le FIR, qui allait pouvoir mettre plus d'argent. Mais tu sais, ils font ça aussi quand ils vont chercher des. Tu sais, les Browns vont chercher le contrat de Shea Weber. Ils ont pu mettre Robin Enner sur le LTIR. Fait que ça, ils peuvent jouer encore. Fait que c'est-tu de modifier, dans le fond, le LTIR? Que quand tu mets un gars là-dessus, ça compte aussi. Puis tu peux pas baisser autant que tu voulais la masse. Fait que c'est un truc de chance.
Ouais.
Fait que je me pose la question.
C'est ça. Mais qu'une fois que. Tu sais, c'est de la chance, mais en même temps, tu as un de tes meilleurs joueurs qui est blessé. Fait que c'est comme une façon de récupérer cette malchance-là en la transformant en de la chance pour pouvoir l'utiliser en série éliminatoire. Fait que c'est un enjeu bien complexe, mais moi, je pense que ça doit être une règle qui doit être changée. Est-ce que ça va être fait bientôt? C'est à voir. Mais très bon point d'avoir apporté ça, le cap salarial, qui, oui, reste un enjeu dont on discute beaucoup lorsqu'il s'agit des séries éliminatoires. Fait que là-dessus, les gars, merci beaucoup pour votre temps tout au long de ces éliminatoires-là. J'ai un mot pour la fin, c'est un mot de fin, si vous voulez.
Ben écoute, ça va être un plaisir de suivre ici avec vous. Puis on espère le revoir encore l'an prochain. Et qu'on aura...
Oh, Tom, t'es parti.
C'est beau, Tom. See ya.
Oui, je ne sais pas quand ça a coupé, mais ça a été un plaisir de suivre ça avec vous. Puis on se souhaite des meilleurs match-ups l'an prochain. Une plus grande rivalité, disons, en finale.
Ouais, Vince?
Un mot de la fin, mais vive le hockey.
Vive le hockey, bien dit. Meilleur match-up, bon point, Tom, avant qu'on conclue ça. Moi, je reverrais très bien les séries changer de format pour repasser 1 contre 8, et etc. Moi, j'aimais beaucoup mieux ce format-là. Fait que voilà. Mais merci aux auditeurs pour nous avoir écoutés encore. Ça n'a pas été facile de faire les aux premières loges à tous les jours jusqu'à la fin, mais on s'en est tiré quand même pas pire. Merci à tous les collaborateurs aussi. Ouais, c'est très demandant, effectivement. Merci à tous les collaborateurs, Thomas, Vince, Doualé, entre autres. Bon, il y en a d'autres qui ont été un peu moins présents, mais qui ont fait l'effort quand même. Là, Olivier Guillet, Nicolas Charon, William Gem, j'en oublie. Mais merci à tous. Et en mon nom personnel, Olivier Prince, gros lot, et celui du Club École, on vous remercie de nous avoir écoutés tout au long de cet été. On vous souhaite une très bonne saison de hockey l'an prochain également. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt, ou pas tant bientôt, pour un autre épisode d'Aux Premières Loges.